Bouchard en parle.
Voici Pascal Picard.
Here I am.
Ben, je sais, c'est ça que je viens de dire.
Avec la petite batterie à la fin, hein. Pascal Picard, bonjour.
Salut, ben, mes nouveaux amis. Ça va super bien. Ça va toujours bien quand je suis ici avec vous.
Comme nous autres aussi, on est toujours très heureux de t'accueillir comme ça. D'autant plus que tu vas parler d'un sujet qui fait toujours jaser énormément. Ça, là, en tant que... C'est un des sujets à la radio que dès que tu l'abordes, dans le temps, je pense encore, on battait tous les records de courriels, parce que ça a commencé par des courriels, oui. Avec les textos ou les appels autrefois. Là. Dès que tu dis TDAH, il y a un débat qui commence.
Ah oui, un débat?
Ben, des fois...
À cause de la médication.
Ah oui, je comprends. C'est un débat que je comprends aussi. Ben, moi, en fait, je suis médicamentée. Je vais partir comme ça. Envoyez-moi des courriels pour me dire que ça n'a pas d'allure.
On est deux.
Ah, t'es médicamentée aussi, Karine?
Absolument.
Ah, c'est génial. Est-ce qu'on est les deux seuls TDAH dans l'équipe de quatre?
Oui.
C'est quand même, on bat des statistiques parce qu'il paraît qu'il y a 4 % de la population adulte qui est TDAH seulement.
Ah ben.
Ouais, c'est ce que je lisais.
Mais dans notre temps, c'était pas populaire là.
Non, parce qu'on est à peu près de la même génération.
Oui.
Moi, j'ai pas été médicamentée quand j'étais jeune.
Moi non plus.
J'ai eu mon diagnostic beaucoup plus tard. Dans le, tu sais, la vie adulte, j'ai essayé de la médication quand j'avais 27-28 ans, puis il y a plusieurs molécules là-dedans là, je suis vraiment pas pharmacienne, on va pas aller là-dedans, mais ça fonctionnait pas pour moi, puis ce qu'on apprend, ce que j'ai lu cette semaine, là, c'est le docteur Annick Vincent qui a écrit ça. C'est un livre qui a été publié il y a quand même plusieurs années. Je l'ai posté sur Instagram tantôt, ouais. Juste pour dire que je m'en venais. Puis j'ai plein de gens qui m'écrivent me dire j'ai ce livre-là, je l'ai lu. Okay. Je pense que c'est comme une bible, mais moi je le connais, je l'ai connu cette semaine. Je l'ai dévoré en une semaine. Ça s'appelle Mon cerveau a encore besoin de lunettes. Puis c'est son deuxième livre sur le sujet. Le premier étant adressé plus aux enfants, qui est Mon cerveau a besoin de lunettes.
Okay.
Puis Mon cerveau a encore besoin de lunettes. C'est plus dirigé vers les adolescents puis les adultes parce que le TDAH se manifeste différemment que ça soit chez les jeunes ou chez les personnes plus âgées là, sans le guillemets mais
je sais quoi te parler mais juste ça là, je note quand même des fois dans la vie j'aime ça moi être positif une incroyable progression sur le débat sur TDAH quand je vous disais qu'autrefois ça faisait réagir là il suffisait de prononcer le mot Ritalin. Mettons que tu es un animateur de radio paresseux, là, tu te lèves un matin, tu n'as pas de sujet, tu veux faire réagir. J'ai jamais fait ça! Bon. OK. Oui, je l'avoue. Ben oui, tu disais Ritalin. Hey, le Ritalin, là! J'ai des stats sur le Ritalin! Ça embarquait et malheureusement, là, on est rendu ailleurs. Je pense qu'on a évolué. Moi, avec tout le monde.
Oui.
Parce qu'à l'époque, beaucoup de gens disaient le TDAH. Voyons donc, ça s'appelle des enfants turbulents. Dans mon temps, des petits Chris, là, on les envoyait dans le coin, ils réfléchissaient, on les envoyait jouer des arbres, ça se réglait. Il y a beaucoup de gens niaient le côté chimique, le côté de la maladie. Puis là, la médication est extrêmement controversée. Dès que tu disais Ritalin, il y avait des gens qui étaient contre ça. Mais vraiment, là. Et les parents qui en donnaient à leurs enfants avec des résultats venaient bien fâchés parce qu'ils disaient, hey, moi, ça a sauvé mon petit.
Ouais.
Moi, mais là, le procès. Là, on n'est plus là. On est plus profond un peu. On est dans les, tu sais, on discute encore, tout ça. Mais je pense quand même qu'on a évolué beaucoup.
Ben probablement, effectivement. Puis chacun a son opinion là-dessus. Moi, j'ai l'impression, dans tout ce que j'ai lu, puis, je suis vraiment pas une experte, mais je suis une experte dans la mesure où moi, je le sais que je suis TDAH. Puis, je le sais que j'ai essayé des affaires.
Mais vous venez de le dire, juste ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est une progression. C'est pour ça que j'ai fait ma... Vous venez tous les deux de dire à la radio, on est TDAH, puis ça va, là, il y a personne qui est scandalisé, puis vous en avez parlé autrefois.
Ah
je
oui,
vous dis,
hein?
Ah non, vous n'auriez pas pu faire ça. Puis, dire que vous preniez de la médication.
Ouais.
Il y aurait eu, je vous jure, là.
Le changement est récent, Sylvain. Je pense qu'il y a 4-5 ans, c'est vraiment très récent qu'on aborde les questions de neurodiversité. Parce que c'est ça, c'est de la neurodiversité. C'est des différentes personnes qui ont différents types de raisonnement. Le TDA, il y en a d'autres aussi. C'est très récent. Là. On commence à peine à voir ça. Même chose avec l'autisme, les personnes Asperger.
Ah oui,
c'est un bel exemple. Qui prennent la parole. Garde et tout ça. C'est quoi? C'est apprenti autiste. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un documentaire qui est excellent là-dessus pour comprendre comment ces gens-là raisonnent.
Mais tant mieux, sombrer ces tabous-là. Puis surtout ce qui concerne le cerveau. Là. Mais on commence
Réal Bellan est sorti cette semaine. Pour parler de son du fait qu'il est Asperger.
Ah ouais?
Et sa fille aussi.
Je savais pas.
Mais tu vois, c'est sorti cette semaine.
Il en a parlé. Oui. Ben, tant mieux, bravo.
Ça a été bien accueilli.
Bravo, ben oui.
Puis, tu sais, on peut dire, mettons, le TDAH, on parle justement de Réal Bellan qui est sorti, puis sa fille aussi.
Ouais.
Ben, dans le TDAH, premièrement, je vais le dire, là, mais c'est trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Ça, tu vois, Pascal a sûrement de l'hyperactivité, moi, j'en ai pas.
pourquoi tu dis ça?
Je sais
comme
pas.
Ça. Non, mais c'est parce que là, j'étais à la radio, ça paraît pas. Mais oui, moi, c'est ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais un enfant turbulent. Puis ma mère s'est fait dire, puis tu parlais de comment c'était controversé. Oui. C'est sûr qu'il n'y a pas, je pense, un prof qui n'a pas suggéré à ma mère, tu sais, la petite Picard, peut-être que 2-3 pilules, ça l'aiderait à fonctionner. Parce que j'avais dans ma colonne de bulletin, ouais, dans les notes, j'avais toujours des A. Puis, dans le comportement, c'était D. Puis, c'était parle tout le temps, dérange les autres, bouge. Puis, au secondaire, moi, ça s'est vraiment compliqué. Puis, ça a viré. Là, c'était cute au primaire. Au secondaire, ça a été plus rough.
Plus rough en termes de réussite scolaire?
De réussite scolaire, de comportement, okay, de je dirais, toxicomanie aussi. C'est ce qu'on apprend parce que, justement, moi, j'ai consommé très jeune. J'ai arrêté très jeune, là, mais...
Okay. Tu penses que c'est relié à ça?
C'est une des hypothèses. Moi, comme je dis, tout est des hypothèses. Dans le livre, ce qu'a dit le docteur Vincent, c'est que c'est assez prouvé. Non, il y a des études qui tendent à confirmer que les gens qui n'ont pas été médicamentés plus jeunes pourraient développer, ont plus tendance à développer des problèmes de toxicomanie. Parce que dans les molécules qui sont données pour traiter le TDAH, souvent, ça va être, il y a de l'amphétamine là-dedans, il y a des choses qui peuvent ressembler à certaines drogues,
ouais,
tu sais, plus douces ou moins douces là, puis on fera pas l'étalage de ça, mais moi ça a été une des raisons. J'ai une amie qui est mère de famille d'un petit garçon qui rentrait au secondaire en plein milieu de la pandémie, puis qui commençait de la médication. Puis cette personne-là m'a dit, ça fait un an et demi de ça, j'avais pas lu le livre, je savais que j'étais TDAH, puis j'étais pas médicamentée à ce moment-là. Cette personne-là me dit, je m'inquiète pour mon fils, parce que c'est une difficulté. Je pense qu'il faut s'entendre pour dire que chaque parent qui va décider avec son enfant ou pas, là, dépendamment de l'âge de son enfant, de donner de la médication, va avoir réfléchi en tabarouette. Parce que c'est pas une décision qu'on prend à la légère. On le sait là, qu'il y a de la surmédicamentation. On le sait que ça existe, mais je pense qu'un parent qui décide de prendre cette décision-là va prendre une décision éclairée.
C'est parce qu'il n'a pas trouvé d'autres solutions pour
exact,
son enfant.
C'est ça.
Ce qui est énoncé beaucoup par rapport aux prescriptions et à la médication, c'est davantage quel professionnel prend la décision. Parce que il y a beaucoup de neuropsychologues, notamment, qui sont habilités à faire ces diagnostics-là, qui dit ça n'a pas de bon sens que les médecins de famille le fassent. C'est surtout ça le problème, puis je pense jamais qu'il y a de la mauvaise volonté de la part des
parents. Absolument, ben oui.
Mais souvent, il y a un manque de ressources ou de connaissances à aller vers quel professionnel. Plus surtout que le médecin de famille, qui, lui, a des connaissances de base, je ne suis pas en train de dire sont incompétents, mais ils n'ont pas les compétences d'un neuropsychologue pour faire ces diagnostics-là.
Puis c'est quelque chose, effectivement, ça prend une expérience vraiment concrète parce que tu peux pas passer un scan du cerveau. Là. C'est plusieurs examens qui vont déterminer si on a un TDAH ou pas. Puis effectivement, le TDAH, quand je disais, il y a 5% des enfants, puis là, selon les données, admettons, selon les critères de l'étude ou de la région où les études sont faites, les enfants, c'est 5%, mais entre 2 et 12% des enfants qui ont le TDAH, puis il y en a qui vont le conserver à l'âge adulte, c'est 4% de la population. Ça veut dire que on connaît les symptômes, on se dit, quelqu'un qui est énervé, quelqu'un qui est dans l'une, mais c'est pas parce que tu es dans l'une et que tu es énervé que tu as nécessairement un TDAH. Il y a des choses qui peuvent être circonstancielles. Si ça fait.
Ça peut être de l'anxiété,
c'est ça, exactement.
C'est ça qui a créé, je pense, une mauvaise publicité au Ritalin puis à la médication. Parce qu'il y a eu de la surmédication, parce qu'il y a eu peut-être des abus ou etc. Ben là, à un moment donné, il y a du monde qui ont mis tout le monde dans le même paquet puis se sont mis à nier la réalité un peu, qu'il y a vraiment des gens qui en ont besoin puis pour qui c'est vraiment bon.
Oui, et puis besoin aussi, c'est encore un truc qui est relatif. Parce que est-ce qu'on peut fonctionner sans? Est-ce qu'on développe des outils? C'est beaucoup ça qui est pris en ligne de compte. C'est, comme je disais justement, je parlais de mon amie que son enfant rentrait à l'école, qui m'a dit ça m'inquiète que mon enfant prenne de la médication. Elle dit c'est un sportif. On fait vraiment tout ce qu'on peut pour l'accompagner là-dedans puis qu'il se dépense. Puis ce que j'ai dit ben premièrement, je pense que si vous avez pris cette décision-là, ton conjoint et toi, ben c'est probablement comme disait Karen, parce que vous avez essayé toutes les autres options, puis ça vous semble être celle qui va apporter le plus de bénéfices avec le moins de conséquences négatives possibles. Puis deuxièmement, c'est là que j'ai dit, moi, si j'avais été, je veux pas retourner dans le temps, puis je pense pas nécessairement que j'aurais dû, on saurait jamais ce qui me serait arrivé comme vie si j'avais été médicamentée plus jeune, mais est-ce que j'aurais eu la même adolescence? Est-ce que j'aurais coulé tous mes cours? Moi, j'étais allée voir en éducation, choix de carrière, j'étais allée voir un orienteur qui m'a dit, toi, c'est un DEP, tu peux pas aller plus loin que ça. Puis, en disant ça, il me disait deux choses. Il me disait, premièrement, qu'un DEP, C'est pas, tu sais, c'est
ordinaire.
C'est ordinaire, comme si, c'est
ouais, ça. C'est comme si dévalorisé. C'était pas valorisé,
c'est ça, comme si c'était dévalorisé. Ouais. Puis deuxièmement, que juste en regardant mes notes, ben, tu sais, je pouvais pas aspirer.
Tu pouvais rien faire.
C'est ça.
Parce que j'avais. T'avais pas des bonnes notes au secondaire?
Non, vraiment okay, pas. Non, non, je coulais, puis j'étais pas intéressée.
Au primaire, t'étais passé de A au primaire. Oui. Donc, t'avais à ce moment-là une facilité de compréhension, là, ça allait bien.
Ouais.
A, au secondaire, le comportement faisait en sorte que là, ça affectait les notes, là.
Ben, parce que t'as plus de, ben, tu sais, il y a plein, encore une fois, il y a plein de circonstances. Moi, à l'adolescence, il y avait, beaucoup d'affaires, là, dans mon environnement aussi. Il y avait plein d'affaires qui ont brassé pas mal. Mais tu penses que tu as un petit peu plus de liberté, le fait que les cours soient, ça soit pas toujours le même professeur qui te suit, il y a plein d'affaires, mais je me suis désintéressée. Il y a eu plein de facteurs qui sont entrés en compte. Mais c'est ça que fait je voulais
lui,
dire.
Lui, il a regardé juste ça, là, il a regardé tes notes, puis il a fait DEP.
Exact. En plan, j'ai commencé à regarder ça. Moi, j'ai arrêté l'école, puis pourtant. En tout cas, quand je me suis mis à me forcer plus, ben, tu sais, ça allait mieux aussi. Là. Fait que y a plein de choses qui, comme je dis, qui entrent en ligne
t'étais
de compte.
T'étais pas médicamentée jusqu'à quel âge?
C'est ça. Quand j'ai eu mon diagnostic, j'avais 27-28 ans.
Oh.
J'étais pas particulièrement étonnée de ça.
OK.
Mais je connaissais seulement les grandes lignes, puis surtout les grandes lignes qui sont attribuées aux enfants. Puis c'est resté comme ça. J'ai essayé des médicaments. J'ai essayé du Ritalin, justement, pendant quelques mois, puis ça fonctionnait pas pour moi. Il y a des grosses pertes de poids. Tu sais, il y a plusieurs. J'avais des palpitations. J'étais pas bien physiquement. Beaucoup d'effets secondaires. Puis j'ai arrêté pendant plusieurs années en me disant j'ai développé des outils maintenant. Parce que c'est beaucoup de ça dont il est question dans le livre. C'est les outils qu'on développe parce qu'il le faut. Puis il faut fonctionner dans le cerveau. Il pense pas de la même manière que les autres. C'est comme si le contrôleur routier. Il n'y a pas de contrôleur routier, en fait. Puis, il n'y a pas de priorisation dans les idées qui rentrent. Je sais pas comment... je pense à quelque chose, là.
Mon cerveau a besoin de lunettes. Je trouve que c'est très, très bien dit. Elle apprend, donc, elle n'est pas anti-médicaments.
Ni pour,
mais apprendre qu'il y a peut-être des façons de se passer de la médication? C'est tout ça un peu où elle veut en venir?
Il n'y a pas de prônage, il n'y a rien, okay, en fait. Okay. C'est très...
Elle donne des trucs.
C'est vraiment des faits. Okay. C'est un docteur qui explique la condition. Je veux pas dire la maladie, mais cette condition-là.
OK.
Puis je me rappelle pas où j'allais avec ça.
Tu vois, c'est ça le TDAH.
C'est exactement ça. Ah, je parlais prioriser les
un
idées.
C'est ça. TDAH.
Moi, s'il y a un avion qui part. Ah, mais moi, des exemples, là, c'est parce que ce qui est arrivé cette semaine, là, en gros, c'est que j'ai réussi à perdre mon couteau de cuisine.
Ouais.
Pas mon couteau de camping que je traîne sur moi, là. Mon couteau dans le bloc de couteau qui se promène toujours seulement entre le lave-vaisselle puis le bloc de couteau sous le comptoir.
Et tu l'as perdu.
Deux mètres, il est perdu. J'ai fouillé partout dans la maison.
Pascal, il m'est arrivé la même affaire cet été. J'allais trouver dans un tiroir où il n'y avait pas du tout affaire à aller là.
C'est ça.
Un tiroir à bas genre, là. Où,
non, mais genre le tiroir du saran wrap, là.
OK, un tiroir dans la cuisine où il n'y a pas d'affaire partout.
Non, il n'a jamais été là. Il n'y a pas d'affaire, là. Okay. Je l'ai cherché pendant 2 semaines, là.
Ben, c'est exactement ça ce qu'elle dit par rapport au TDAH. C'est que les adultes, tu sais, moi, quand j'étais jeune, je perdais mon portefeuille tout le temps. Je perdais mes cartes. Fallait tout le temps que je fasse refaire ma carte d'assurance maladie parce que j'arrivais dans une cabine téléphonique. Ça donne mon âge. Je m'installais pour jaser. Je mettais mon portefeuille sur la cabine, sur le téléphone, le bloc. Puis après ça, je m'en allais. J'oubliais mon portefeuille là. Mais quand tu vieillis, tu perds plus tes affaires. Mais, tu perds un temps fou à les chercher. T'es égaré pendant un certain temps. Puis moi, j'ai perdu, à un moment donné, j'avais 300-400 euros. Puis que mon chum et moi, on avait mis en commun. Puis là, on s'en allait en France. Puis là, j'ai dit, oui, c'est que moi, je me dis, je vais ranger mes affaires à telle place, comme ça, j'oublierai pas. Puis tout de suite après, j'oublie. Fait que là, j'avais rangé dans une place, là, j'étais rendu, on trouvait plus d'euros. Mon chum était pas de bonne humeur, pas besoin de le dire. On s'en allait le lendemain, puis on a, toute notre fortune, entre guillemets, 2 euros. La blonde, elle l'a tellement bien rangée qu'on le trouve plus, tu sais.
Mais la médication règle ça?
La médication m'aide. Puis moi, j'ai une petite dose. C'est ça aussi. Puis je suis allée faire mon examen général parce que je suis suivie par un psy. Puis c'est un psy. En tout cas, tu sais, je ferai pas mon pedigree là, médical, là, mais tu sais, tout est... Je suis suivie là-dedans. J'ai 38 ans. Fait que, tu sais, puis je suis consciente que c'est des drogues. Puis j'aime pas la médication, moi, justement. Vraiment pas. J'ai toujours été assez... j'aime ça être au naturel, là. Je sais pas trop comment dire ça. Mm-hmm. Mais, fait que je suis très prudente avec ça. Puis j'ai essayé des choses. Puis là, ce que j'ai, c'est mon médecin de famille a dit, genre, t'es rendu que tu fais de la basse pression, ce qui est une bonne chose. Parce que moi, je faisais de l'anxiété. Ça veut dire que mon anxiété a baissé. Je fais beaucoup d'exercices aussi, là. Parce que ça, c'est un des trucs... T'sais, les outils quand t'es TDAH,
c'est ça.
Il y en a, c'est avoir, tu sais, ça part beaucoup de l'hygiène de vie pour se donner des chances, bien dormir, bien manger, faire du sport.
Mais j'ai une question à vous poser qui est, t'as dit quoi que je trouve fort intéressant dans tout ce débat-là, là. Les gens écoutent ça, puis je sais que le débat, il existe encore, même s'il y a plus, d'ouverture et de respect qu'avant, puis tant mieux, le fait que tous les deux vous en témoignez aujourd'hui. Quand moi, j'apprends des choses. Je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent qui, bon. Mais t'as dit une phrase, t'as dit, on est tous pareils. Moi, je veux pas trop de médicaments. Là. J'aime mieux être au naturel. C'est ton expression, tout ça. Avouez qu'on a beaucoup plus de tabous pour le cerveau que pour le reste de notre corps. Tu sais, quelqu'un qui a des problèmes de digestion, là, de cholestérol ou n'importe quel problème. Là,
de diabète, il va prendre l'insuline.
Mais il va prendre des médicaments. Mais toute sa vie, il n'y a personne qui va aller dire « Tu devrais te passer d'insuline, toi. Hey, chose, je suis diabétique. » Hey, tu sais, moi, j'en prends un médicament pour la digestion, mais c'est, puis il n'y a aucun effet secondaire. Puis mon médecin m'a dit, tu peux prendre ça à vie. À vie, tout le monde, ils prennent ça toute leur vie, puis ça va régler ton petit problème. Puis j'ai pas honte de ça, etc. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens pensent qu'à la naissance, on a tous le même cerveau. On n'a pas tout le même corps. Ah ben non, ça, il y en a qui ont des petites lacunes, des maladies, il faut respecter ça. Au niveau du cœur, des poumons et des reins.
Il y en a des grands, des petits. Là.
Mais le cerveau est tout pareil. Puis là, c'est tes décisions à toi, ta philosophie, si tu te comportes bien, tu vas être fort, tu vas être tout ça. Puis la dépression, c'est pour les faibles. Puis fais du sport. Mais là, de plus en plus, plus on creuse, on en arrive à quoi? Le dernier livre que j'ai lu, il posait une question fort intéressante. Le gars, c'est un psychiatre très, très célèbre, il écrit plein de livres, tout ça, il a essayé le Prozac. Bon, OK.
Prozac, c'est quoi? C'est un calmant?
Antidépresseur?
Non, c'est un antidépresseur qui rend très heureux. Et ça fonctionne hyper bien.
Bon.
Et lui, il a des gros effets secondaires avec le Prozac qui sont pas le fun, fait qu'il a arrêté ça, puis il continue, c'est un psy, puis il se prend en main, puis inquiétez-vous pas, les voyages, des bonnes valeurs, tout ça. Mais dans son livre, il écrit, puis ça m'a beaucoup fait réagir, il dit, en passant, je veux juste vous dire que si j'avais pas d'effets secondaires, je prendrais du Prozac jusqu'à la fin de mes jours, parce que ça me rend plus heureux. Point. Moi, j'ai lu ça, j'ai fait, mais non. Mais pensez-y deux secondes, les amis, si un médicament augmente le bonheur de quelqu'un puis le rend heureux, qu'est-ce qu'il y a de mal à le prendre jusqu'à la fin de ses jours? C'est tricher. On n'est pas aux Jeux olympiques. T'as pas le droit de prendre de la drogue aux Olympiques. Le problème, ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y en a d'autres qui n'en prennent pas. Honnêtement, là, je l'ai déjà dit en boutade. C'est une boutade, puis je sais que ces médicaments-là, ça peut affecter la santé des athlètes. Mais si en 88 à Séoul, là, tout le monde était dopé, on le sait maintenant. Il devrait y redonner sa médaille à Ben Johnson. Il était dopé toute la gang, on le sait. Il n'y a eu aucune injustice à Séoul. Où était l'injustice? Il y en aurait eu une si Johnson avait été le seul dopé, comme on croyait à l'époque, on le punit. Mais Lewis était dopé, puis les autres aussi étaient dopés. Quand tout le monde est dopé. Mais quand on parle de ça, médicaments pour le cerveau, on dirait qu'on a les mêmes réflexes qu'aux Jeux olympiques. C'est pas juste le dopage. Hey, t'as peur. Ça t'enlève rien. Si le médicament est disponible, que ce soit le Ritalin, que ce soit le Prozac, si on en fait un bon usage, si on n'en abuse pas, pourquoi est-ce qu'on peut pas aider notre cerveau un peu à avoir des lunettes? Je vais reprendre l'expression de ton livre, je l'aime bien. Si ton cerveau a besoin de lunettes, y a-tu quelqu'un qui empêche? Hey, tu devrais pas mettre de lunettes. Moi, là, dans la vie, j'en mets pas de lunettes. Puis les yeux que la nature m'ont donné, puis j'essaie de... tu vois mal, tu vois mal.
Je conduis pas, là.
Si t'as besoin d'un médicament pour être heureuse, prends-les.
Ben, c'est même pas une question d'être heureux. Moi, c'est de fonctionner. Si je ne prenais pas cette médication-là, je serais pas en onde avec vous.
Tu serais pas capable de travailler, toi?
Je serais pas capable de travailler. J'ai développé des outils parce que j'ai été diagnostiquée sur le tard, un peu comme Pascal, à l'âge de 30 ans. Et c'est moi qui est allée voir mon médecin en disant, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Mais ça va trop vite. Je suis pas capable de suivre. Il se passe quelque chose. On a fait les tests et à chaque question, je riais. Puis là, il a dit, OK, mais tu te reconnais? Je dis, ben oui, je me reconnais, mais être à l'école aujourd'hui, je serais un cauchemar pour un prof, là. La clown, etc., qui est pas capable de tenir. Mais je suis capable de m'installer 2 heures devant sur un divan puis d'écouter un film, c'est pas ça le
Mais c'est
le
ça
point.
Exactement pour ça qu'on pense qu'on l'est pas souvent. C'est pas ça le point, c'est que ça se manifeste autrement quand t'es adulte. Oui, t'es capable de t'asseoir, mais t'as de la misère à tolérer d'attendre, puis en même temps, tu manges la gomme, tu tapes.
Moi, j'ai de la misère quand il y a beaucoup, beaucoup de bruit autour de moi, je ne peux pas travailler. Je n'y arrive pas. Mais ça devient problématique là, dans un environnement de travail, surtout dans les dernières années, parce que tu sais, c'est des espèces de bureaux où tout le monde est à côté, puis c'est juste un petit paravent pour entendre tout. Moi, je vais être complètement folle. Donc, sans médication, impossible. Ouais. Je vais faire ma journée quand même, mais je le sais quand je l'ai oublié.
Et là, le problème qu'on a, tu sais, tantôt, je disais, on fait souvent référence au dopage, parce que là, il y en a un problème aux Olympiques avec les athlètes, parce que c'est de la tricherie, là, etc.
Oui, c'est
mais
ça.
Mais là où on... Tu sais, tantôt, tu me donnais des chiffres, puis j'ai porté attention, là. Tu me disais que chez les adultes, aux alentours de 5-6 %
4 %
Peut-être 4 % Allez faire un tour dans la faculté de... Je n'en nommerai pas. Pas parce que ça fait...
Mais pas juste seul.
Il y a quelques facultés à l'Université Laval où entre 70 et 80 % des étudiants prennent de quoi.
Ah, puis il y a...
Entre 70 et 80, je peux vous nommer
Suprême. C'est Radio-Cégep aussi, en passant, pas chez l'université.
Ben, c'est ouais. ça, malheureusement.
Et à cause de ça, souvent, il y a un regard négatif ou de jugement qui se porte sur vous autres, qui sont diagnostiqués et tout, et qui en ont besoin. Il est là le problème.
Mais moi, j'aimerais que quelqu'un qui en prend, alors qu'il n'en a pas besoin, passe une journée dans ma tête.
Mais ça, c'est parce que rendu là, c'est une drogue. Là. Oui. Quelqu'un qui il va prendre ça. Il y en a qui prennent ça. Malheureusement, il y a un marché noir pour ça. Aussi,
le travail. On peut pas changer de pharmacie, nous autres, pour ces médicaments-là.
C'est ça, exactement. C'est super compliqué. Je peux pas aller à Montréal si j'ai oublié mes affaires, puis les comptes, puis ton truc est encerclé.
Ah ouais,
je pourrais pas.
Oui,
c'est tellement contrôlé, les gars.
Parce qu'il y a du trafic.
Oui. Mais je veux dire, moi, si je déménage, je suis encore à la même pharmacie, parce que sinon, ça me prend une nouvelle prescription de mon médecin.
Okay.
Tu peux pas changer de pharmacie comme pour une pilule contraceptive.
Parce qu'il y a du trafic,
exactement.
Parce qu'il y a de l'abus,
c'est contrôlé.
Puis parce que, il y a là le problème. Hey, merci beaucoup.
C'est vraiment intéressant.
25226, c'est si vous avez
plusieurs personnes plein de personnes qui témoignent eux autres aussi, que ce soit sur leur enfant, soit sur eux-mêmes. J'ai un TDAH, j'en prends. Mon fils a un TDAH. Avant de commencer la médication, on a essayé plusieurs moyens. Bureau debout, le sport, c'est ça. Ça, c'est vrai. Ça, Myriam, c'est beaucoup battu contre ça en ondes. Le mythe que les parents, ça ne les intéresse pas s'occuper de leur enfant, fait qu'ils les mettent sur le Ritalin. Voyons donc, c'est pas vrai. Ça, j'y crois pas, là. Que les parents veulent droguer leurs enfants.
Ça fait partie des choses que je disais qu'au début du débat, c'était ça. Là, voyons donc, lâchez le Ritalin, puis qu'ils fassent du sport, ils n'auront pas besoin de Ritalin. Mais voyons donc, regarde vous autres.
Moi, j'en fais, là. Je cours comme une bonne, là. Je m'entraîne à tous les jours, puis ça m'empêche pas que ceux qui me regardent sur Twitch, là, dans le Québec se lève, je suis de même sur ma chaîne, je vire d'un bord puis de l'autre pendant 3 heures de temps.
Et la bonne nouvelle, les filles, c'est que de tous les textos qu'il y a eu, plein de témoignages, plein de gens qui parlent, il n'y a pas un maudit qui dit vous êtes une gang de drogués.
Ah, on l'aurait eu avant, j'en sais pas. Tu sais, t'es assez vieux pour voir ça. On l'aurait eu.
On vous aime, les auditeurs, auditrices. Vous êtes smart.
On vous aime aussi. Merci, Pascal.
Merci.